pouvez manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Je viens avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme ! Au secours !
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour deux heures avec ce soir trois voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. J'ai marqué des mauvais noms, mais Jean-François Coulon-Desart est là.
Bah, c'est le bon nom, bonsoir.
C'est le bon nom, hein, c'est bien ça, c'est bien vous. Yves-Marie Sevilla aussi.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Bonsoir Yves-Marie et Damien Chalamel, notre cher maître, est là aussi.
Bonsoir cher Marc, chers auditeurs.
Vous le connaissez tous et vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. Vous le savez, on les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Martine est là, elle attend vos coups de fil. Vous êtes comme d'habitude les bienvenus au programme de ce soir. Un petit édito sur le Conseil constitutionnel, puisqu'il y a deux avocats ici, je vais essayer de faire attention, mais... le Conseil constitutionnel rétablit les fameuses ZFE, vous savez, les zones à faible émission. On parlera, j'essaierai de vous parler de la folle dérive des sages. Et puis en première partie, nous parlerons de l'Union européenne, l'histoire d'une trahison de la France et de son peuple, avec l'auteur d'un livre absolument passionnant, on en reparlera tout à l'heure, Guilain Benessa, qui est parmi nous ce soir. Bonsoir, cher maître.
Bonsoir.
Nous parlerons en deuxième partie de l'affaire Canal+, le suicide en direct du cinéma français avec Pascal Thomas. Il sera aussi là avec nous. Il est réalisateur de cinéma, scénariste, acteur et producteur. Je vous le présenterai aussi plus en détail tout à l'heure. Mais auparavant, notre traditionnel tour de l'actualité. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine ? Yves-Marie, par exemple, Yves-Marie Sevilla.
Oui, bah écoutez Marc...
journaliste à Boulevard Voltaire.
Moi, j'ai voulu me pencher un petit peu sur l'actualité des Bouches-du-Rhône en prévision des élections sénatoriales qui approchent, parce qu'on considère effectivement, quand on regarde un petit peu à la loupe, un département qui est assez significatif et révélateur des vastes communicants qui sont en train de s'opérer au sein de la droite, entre les Républicains et le Rassemblement National avec son allié UDR, et notamment sur cette dernière semaine, deux vice-présidentes du département, Martine Vassal, présidente du département, divers droites, mais bon, grosso modo, avec un espèce de mélange macroniste, LR, forcément dénoncé par le Rassemblement National, mais donc ces deux vice-présidentes de la majorité de droite LR macroniste ont rejoint... l'UDR et l'autre le RN.
Ah
et
oui,
donc
c'est
l'une, c'est aussi très significatif puisqu'elle va emmener la liste Rassemblement National pour les prochaines sénatoriales. On peut noter aussi, donc voilà, on sent vraiment que les LR commencent à avoir des sérieuses difficultés avec le score très très faible de Martine Vassal aux dernières municipales, le corps électoral des sénateurs LR dans les Bouches-du-Rhône est vraiment très très faible. On va voir comment effectivement ils vont arriver à s'organiser. Mais effectivement,
ça sent la crise très très lourde.
Ça sent la crise lourde.
Dans le sud, au moins, dans le sud pour les LR.
C'est certain, c'est certain. Et on a noté effectivement un élément intéressant aussi, c'est que toute cette affaire n'a pas fait le jeu de Stéphane Ravier, donc effectivement, qui avait rejoint en début de campagne la candidature de Franck Alizio, le candidat du Rassemblement National. Et effectivement, Marine Le Pen, visiblement, n'a pas de considération ou encore véritablement pardonné à Stéphane Ravier, puisqu'il ne sera pas sur la liste du RN, malgré le fait qu'il est rallié.
Qu'il y avait eu un accord entre eux, apparemment, ce n'est pas le cas.
Hein. Certains, effectivement, évoquent un arrangement, mais semblerait-il que cet arrangement ne serait plus vraiment... en cours.
Ouais, on va vers une domination quand même du tandem RN
UDR
à Marseille.
À Marseille, très significativement.
RPR également.
Tout à fait. Ouais. Ils ont fait renaître le RPR.
Ouais, c'est le petit-fils de l'amiral Muselier, Renaud Muselier, qui doit être content de tout ce qui se passe. Ouais. Parce que c'est pas du tout ce qu'il avait imaginé.
Et il veut, il va essayer de se faufiler.
Devenir sénateur, lui. Il veut être sénateur.
Ça risque d'être compliqué.
Mais est-ce que vous pouvez nous préciser, Stéphane Ravier, l'excellent Stéphane Ravier, le brillant Stéphane Ravier, je comprends bien qu'il n'a pas l'investiture du RN, mais est-ce qu'il sera candidat à ces élections sénatoriales investi par un quelconque parti? J'imagine qu'il...
Alors il sera investi par personne, il va partir seul, indépendant.
Seul, d'accord, indépendant.
Indépendant,
d'accord.
Rappelons que la dernière fois, il avait gagné... Pas tant sur son nom propre, parce qu'il était dernier sénatorial en 2020, puisque rappelons-le, effectivement, raison pour laquelle Marine Le Pen a une dent contre lui, c'est que Stéphane Ravier a eu une aventure zémouriste pendant la présidentielle.
zémouriste.
Et bon, voilà, il a créé sa propre formation, Marseille d'abord.
Ça sent la pièce de Fédo.
Il va partir, mais grosso modo, il a un sénateur dans les Bouches du Rhône, pour être élu, doit obtenir environ 300 voix.
De grands électeurs,
ouais. Semblerait-il, Stéphane Ravier pourrait en avoir acquis avec sa notoriété, ses liens, son implantation qui est réelle, hein, son action locale est tout à fait soulignée, reconnue. Mais un certain nombre de ses proches ont été élus au sein du conseil municipal, sont devenus grands électeurs, donc il peut avoir environ compté sur entre 100 et 120 voix, mais il faut qu'il en gagne 150, 180 de plus, ce qui risque quand même d'être difficile.
Et c'était
d'être
tout de même un lepéniste historique, sinon un jean-mariste.
Absolument, oui. Ah, il est resté tout à fait fidèle.
Sur les idées. Jean-François Coulon-Désart.
Eh bien, écoutez, moi, c'est un chiffre qui m'a frappé. C'est 13. 13 millions. Ah. 13 millions, ce sont les aides de l'État français pour soutenir les pêcheurs. Vous savez qu'il y a une grave crise en ce moment du carburant.
Oui.
Et ces 13 millions, figurez-vous que, ça y est, on est sauvés. L'Union européenne a validé l'aide de 13 millions aux pêcheurs français. Ça veut dire qu'on est en France. On décide d'aider les pêcheurs, les agriculteurs, les gens qui en ont besoin. On donne notre argent et il faut que ce soit validé par d'obscurs fonctionnaires de Bruxelles.
Voilà
qui introduit notre sujet de tout à l'heure.
C'est toute l'Europe que je déteste.
Vous avez raison, moi aussi. Bonne pioche, bonne pêche, c'est le cas de le dire. Jean-François Coulon.
C'est ce qu'on a... Oui, non, mais je rebondis sur Jean-François, c'est ce qu'on appelle une aide d'État. Donc, Guylain Benessa vous expliquera pourquoi c'est très mal. Mais moi, c'est l'article 13
Damien
aussi.
Damien Chalamel.
Oui, mais moi, j'ai retenu l'article 13, la Constitution que vous lisez tous les matins, et en vertu duquel, depuis quelques années maintenant, on demande aux assemblées de se prononcer sur la nomination d'un certain nombre de hauts fonctionnaires. Et en dernier lieu, donc, on a nommé Emmanuel Moulin, et du moins a-t-on... donc Emmanuel Moulin qui vient d'être nommé gouverneur de la Banque de France, et on a soumis cette nomination aux assemblées donc, qui ont ce droit de veto, qu'en définitive, elles n'ont pas exercé. Alors pourquoi je trouve ça intéressant? C'est parce qu'en réalité, on peut voir ça comme un symptôme de la permanence d'un certain état profond à la française, hein. Monsieur Emmanuel Moulin, c'est le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, puis celui d'Attal. C'est également le directeur du Trésor. Donc franchement...
Secrétaire général de l'Élysée.
Et pour finir cette brillante carrière, avant d'être à la Banque de France, secrétaire général de l'Élysée. Donc si vous voulez, vous êtes dans l'incarnation chimiquement pure du macronisme, des réussites financières de ce grand déclassement, de ces 10 ans de grand déclassement financier, puisque c'est sa partie, t'es comme directeur du Trésor. Donc ça laisse franchement songeur. Hein. Et en même temps, je ne peux que...
Ce grand déclassement n'aura pas nuit à tout le monde.
Ah oui, non, certainement pas à lui, d'autant plus qu'il a alterné sa carrière de haut fonctionnaire avec des passages en banque d'affaires, américaine bien évidemment.
Attends, il faut bien gagner un peu d'argent quand même.
Bien sûr. Hein.
Voilà.
Donc, alors, non, mais ça laisse songeur et perplexe. En même temps, il y a ce mécanisme qui est relativement nouveau, parce que vous savez qu'en France, c'est pas le système des dépouilles à l'américaine, hein, le spoil system. Hein. En France, les administrations restent, les gouvernements passent, c'est le principe. Bon, là, effectivement, avec cette réforme de la Constitution, puis une loi organique, on a élargi le nombre de dirigeants d'entreprises publiques ou d'autorités administratives indépendantes pour lesquelles le Parlement peut émettre un veto. Bon, là, il est passé juste. Donc, je sais pas, c'est un clair-obscur. L'obscur, c'est cet état profond français. Et le peu de clarté, c'est quand même, malgré tout, ce vote des assemblées.
Oui, mais d'abord, le président a le droit de choisir qui il veut. C'est dans la Constitution, je vais le dire.
Jean-François Coulon.
Mais Macron...
Et après, Maître Benessa qui voulait intervenir.
Macron est connu pour faire passer des entretiens d'embauche. Il s'occupe beaucoup, beaucoup des nominations.
Oui, il est très, très
ordinairement,
impliqué.
C'est plutôt à Matignon que ça se passe, etc. Là, il s'en occupe vraiment énormément. Et c'est vrai, Ferrand, au Conseil constitutionnel, je ne suis pas tout à fait sûr des qualités de juriste de M. Ferrand, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, alors elle peut y être pour très très longtemps, puisque c'est un peu sa vie, etc.
C'est sûr que la Macronie s'est installée là.
Voilà des petits cailloux pour 2032.
Je vous corrige, juste sur un point, le président justement, en application de cet article 13, ne nomme pas qui il veut. C'est-à-dire, il nomme qui il veut sous réserve que le Parlement ne pose pas son veto au 3/5.
Il a de la chance parce que
ça ne vous dérange pas qu'on interrompe votre conversation.
Non.
Maître Julien Benassa. Je me glisse
glissez-vous.
Conversation. Parce que je vais rebondir sur cette nomination. Moi, j'ai été frappé, là, nouvelle récente, qui est de nouveau passée à peu près inaperçue, c'est la nomination de Marc Guillaume comme patron du Conseil d'État, vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire patron du Conseil d'État, qui aurait été quand même l'un des hommes les plus puissants de France. Hein. Dans l'ordre protocolaire, on est tout en haut. Et Marc Guillaume, alors je ne vous cache pas, j'introduis un peu notre discussion de tout à l'heure sur mon livre, mais je finissais mon bouquin avec Marc Guillaume quand c'est mes dernières pages. C'est l'un des derniers profils que j'ai étudié sur l'Europe, sur la question européenne, puisque Marc Guillaume, il était secrétaire général du gouvernement sous François Hollande, secrétaire général du gouvernement sous Emmanuel Macron, et surtout, il a joué un rôle non négligeable dans le fait que Mathias Guillaumard, ancien conseiller d'État pro-Europe à voile tout, on va dire, se retrouve aujourd'hui juge à la Cour européenne des droits de l'homme et président de la CEDH. Donc là, on a l'état profond qui se place en fait petit à petit.
Un verrouillage
sur toutes les juridictions. Et je pense
systématique.
Ça me frappe beaucoup de constater que Guillaumard et Marc Guillaume, donc, ils sont donc proches, sous la férule de Marceau Long, ancien conseiller d'État qui a joué un rôle très très négatif sur la France dans les années 80, et Emmanuel Macron se retrouvent désormais dans deux hautes juridictions, l'un au Conseil d'État, l'autre à la Cour européenne des droits de l'homme. En gros, ça veut dire que demain, l'homme qui voudra changer quoi que ce soit devra déjà parvenir à en déloger pas mal.
Ouais. C'est très impressionnant. Yves-Marie Sevilla.
Oui, et il faut noter que dans toute cette affaire, les Républicains n'ont strictement rien fait. Ont joint effectivement leur voix pour permettre effectivement la validation de cette nomination. Je reviens sur Emmanuel Moulin à la Banque de France. Sachant qu'effectivement, la veille, des éléments faisaient état d'un éventuel arrangement. Un sénateur LR, François-Noël Buffet, pourrait être nommé défenseur des droits et interrogé. Gérard Larcher promet au grand jamais qu'arrangement il y a eu. Nomination est faite, vote est validé. Le lendemain, le même Gérard Larcher qui est interrogé, on lui dit effectivement que François-Noël Buffet pourrait être nommé. Oui, effectivement, mais d'ailleurs, je trouve qu'il a toutes les qualités pour devenir défenseur des droits. Bon,
la plastique de ces hommes.
Voilà, le courage politique des LR ne s'est pas vraiment distingué sur ce cas, je trouve.
C'est clair. Je vous rencontre ce soir, mais je vous prouve un certain courage à estimer que les LR existent toujours. Je le découvre ce soir. Mais je suis content d'être venu.
Oui, voilà. Yves-Marie Sevilla y croit encore. Allez, édito. Le Conseil constitutionnel rétablit les zones à faible émission. Et je voulais vous parler de la folle dérive des sages. Alors, je suis très impressionné parce que je suis encadré par deux avocats, donc ça rigole pas. Vous me direz si j'ai pas trop dit de bêtises. Dans quelques années, on remerciera le Conseil constitutionnel, car comme dit la sagesse populaire, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Les dix sages ont donc décrété le retour des 43 zones à faible émission, nos ZFE. C'est le dernier épisode d'un combat législatif homérique de la droite, pour une fois unie à l'Assemblée nationale, ou presque. La victoire avait mis les larmes aux yeux, on s'en souvient, de l'avocat des Gueux, l'écrivain Alexandre Jardin, qui s'était battu jour et nuit contre cette ségrégation inepte entre gens des villes qui n'ont pas besoin de voiture et habitants des campagnes pour lesquels elle est indispensable. Tout est donc à recommencer pour les anti-ZFE. Ce nouvel épisode dans la bataille des ZFE a le mérite de braquer à nouveau les projecteurs sur une dérive grave, celle du Conseil constitutionnel qui a qualifié la suppression des ZFE de « cavalier législatif ». Cet organe, chargé de veiller sur les règles voulues par De Gaulle et Michel Debré pour assurer le bon fonctionnement de la Ve République, a sans doute des arguments techniques. Mais il apparaît, au fil de décisions de plus en plus contestées, comme une assemblée partisane en pleine dérive, un commando du progressisme toujours prêt à rendre service, toujours du même côté, renvoyant le travail du Parlement à une occupation de bac à sable. La réaction de Laurent Wauquiez sur X à propos des ZAN, les zones... c'est quoi les ZAN? Je me souviens plus. Zones administratives quelque chose. Et des ZFE est assez... cet égard, pour une fois parfaitement adapté, le Conseil constitutionnel, dit Laurent Wauquiez, sauve des usines à gaz technocratiques au mépris de millions de Français. C'est consternant, j'en fais le diagnostic depuis des années. Le Conseil constitutionnel dévoie l'état de droit et connaît une dérive antidémocratique. Seule une révision constitutionnelle pourra le remettre à sa juste place. Fin de citation. La plupart des responsables politiques de droite vont dans le même sens. Le Conseil constitutionnel, composé de 9 personnalités placées sous la présidence du macroniste Richard Ferrand, on en parlait à l'instant, n'en est pas à son coup d'essai. C'est cette instance qui a presque totalement désossé la loi immigration en retirant 34 articles, notamment les quotas migratoires, les restrictions sur le regroupement familial ou encore la caution retour pour les étudiants étrangers. C'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué la possibilité de placer en rétention des demandeurs d'asile qui ne faisaient pas l'objet d'une mesure d'éloignement. C'est lui qui, en août 2025, a écarté la loi dite Philippine, qui prévoyait l'allongement de 90 à 210 jours la durée de rétention des étrangers présentant de forts risques de récidive. C'est encore lui qui a, en avril 2024, rejeté un référendum d'initiative partagée, un RIP, porté par les Républicains et qui visait à conditionner certaines prestations sociales des étrangers à une durée minimale de séjour en situation irrégulière. La liste est longue, très longue, j'en termine. Le coup d'État permanent, c'est celui du Conseil constitutionnel. Le rôle ahurissant qu'il s'est octroyé et ses décisions, tout sauf patriotes, ont de quoi retourner dans sa tombe le concepteur de la Constitution, l'homme qui avait pensé ce dispositif, on en parlait tout à l'heure, Michel Debré. La décision a le mérite de rendre évidente la nécessité de réformer un Conseil constitutionnel devenu militant, aujourd'hui bien plus idéologique que judiciaire. T'en va la cruche à l'eau, comme disait l'autre, elle se brise. Voilà. Guilain Benessa, vous aviez l'air de...
Parce que je...
De réagir sur Michel Debré.
Bah, non, parce que, que Michel Debré l'ait voulu, c'est clair, mais je trouve que le fin mot de l'histoire des ZFE est d'une clarté biblique. C'est le mot du général de Gaulle, qui ne voulait pas de conseil constitutionnel, qui s'est laissé convaincre pour en avoir un, parce qu'à l'époque, il craignait, je cite de mémoire le général de Gaulle dans l'un de mes précédents bouquins, qu'il dit lui-même qu'il craignait le gouvernement de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'il s'imaginait qu'un jour, on aurait une Cour suprême qui déciderait de tout et qui ferait, en gros, le bonheur ou le malheur des uns et des autres. Je constate que 70 ans plus tard, malheureusement...
C'est pas ce que voulaient De Gaulle et Debré.
Non, mais De Gaulle ne voulait pas
cette Cour suprême.
Il voulait pas de Cour constitutionnelle.
Oui.
Il voulait pas de juge comme ça. Il avait compris que le seul gardien de la Constitution, c'était le président de la République.
Et le peuple.
Et le peuple, naturellement.
Enfin, il l'a accepté quand même.
La fameuse phrase, la meilleure Cour suprême, c'est le peuple. Mais il n'empêche, il avait tout saisi et entre-temps, le Conseil constitutionnel a fait sa basse besogne depuis 1971. une triste journée du 16 juillet 71, c'est toute une histoire. Mais depuis, le Conseil fait en réalité ce qu'on lui a laissé faire. C'est-à-dire qu'il est devenu le seul garant, en réalité, déguisé, mais en réalité le seul contrôleur, vérificateur, fabricateur de décisions. Et derrière, les politiques l'ont laissé faire et aujourd'hui se retournent en se demandant comment on a pu en arriver là alors qu'ils l'ont laissé faire pendant des décennies, droite, gauche confondues, rien n'a changé. Et aujourd'hui, ils ne savent plus comment s'en sortir. Et ils essayent de trouver des marottes, des innovations, des révolutions pour contrer cela.
La solution, un référendum pour la suppression du Conseil constitutionnel, qu'on transmettra au Conseil d'ailleurs.
Pourquoi pas ?
Et qui refusera la question posée parce qu'il dira « vous n'avez pas le droit de poser cette question, moi absolument. Je le dis, moi juge ».
Sauf si les politiques en sont maîtres de ce Conseil constitutionnel, puisque Richard Ferrand est nommé par Macron et qu'il en est très proche. Sur Damien Chalamel.
Ou alors, moi j'abonde dans le commentaire général de l'excellent Guilain Bénessa, dont je suis un fidèle lecteur, reste de le dire. Bon, maintenant, pour prendre cet exemple particulier, il est très mauvais. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif.
Attendez ça.
Et non, mais voilà, non, mais si vous voulez, non, mais c'est tellement. Et que ce soit Wauquiez que vous ayez cité. C'est vraiment, si vous voulez, l'ectoplasme parfait.
Oui, mais tout le monde a dit la même chose.
Et c'est quelqu'un qui sort de l'ENA, qui a fait du droit, qui a fait du droit administratif, qui est parlementaire depuis des décennies, qui est intelligent, qui sait très bien qu'en réalité, la manière dont a été voté, et moi, bien évidemment, je suis un adversaire farouche de ces ZFE, encourait. Mais à l'évidence, le risque d'une censure.
Pour vous, sur le plan juridique.
Mais bien sûr, sur le plan de la technique constitutionnelle.
Je rejoins mon confrère, mais j'ai quand même une remarque, c'est que lorsque retraites ont été validées, la fameuse réforme des retraites a été validée par le Conseil constitutionnel. Vous savez ce qu'a dit le Conseil à l'époque, était tout ceci ubuesque. Il a réussi à nous dire dans sa décision, j'ai dû le commenter, écrire dessus. Je me disais, c'est pas possible d'écrire une absurdité pareille. Il a écrit que les chiffres étaient faux. Donc ça veut dire que les Français étaient conçus sur des chiffres faux, que ces chiffres faux ont donné lieu à débat parlementaire, mais que vu qu'il y a eu débat parlementaire, même les chiffres faux n'ont pas tronqué la sincérité du débat à l'égard des Français. C'est merveilleux.
Incroyable.
Ça veut dire que je suis d'accord avec vous techniquement sur le cavalier, mais moi je pense surtout que le Conseil raconte rigoureusement n'importe quoi, juste pour soutenir ses amis, ses comparses, qui s'appellent Emmanuel Macron. Parce que franchement, la sincérité du débat est aussi ubuesque, si on réfléchit, que la situation dans laquelle on est avec les ZFE, même si techniquement, vous avez raison.
Sur la situation des ZFE, sur la suppression des ZFE, alors ça va simplifier, une fois la ZFE supprimée, ça simplifie la vie des commerçants, des artisans qui utilisent un véhicule ancien. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait dépourvu avec le texte qui voulait simplifier la vie des Français. C'est l'objet de la simplification de la vie économique. Mais c'est quand même, c'est ce que vous disiez, c'est quand même abracadabrantesque, je suis désolé, même pour les ZFE.
Yves-Marie Sevilla.
Oui, est-ce que quelqu'un d'intelligent peut m'expliquer juridiquement pourquoi en plus le Conseil...
Ça sera une dernière intervention. Mais
pourquoi le Conseil s'exprime à la fin, bon, très concrètement, est-ce qu'on ne peut pas, avec son existence, imaginer une organisation parlementaire et législative différente ? On a passé des mois et des mois, les Français, les parlementaires, à discuter, à parler de cette discussion sur ce texte. C'était la même chose, vous l'avez cité, sur la loi immigration. Il y a un temps perdu inimaginable. Donc en fait, c'est organisé de façon complètement absurde. Le Conseil ne pouvait pas s'exprimer avant, disant
Il faut qu'il soit saisi. Et je crois que c'est les macronistes qui ont saisi le Conseil.
Mais vont répondre à votre question quand même. Je veux dire, ce contrôle de constitutionnalité, il existe depuis le texte de 1958. Alors, il a été ouvert très largement en 1974, parce que maintenant la saisine peut se faire par 60 députés et 60 sénateurs. Bon, là, en l'occurrence, il y avait au moins une centaine de députés et sénateurs de toute obédience macroniste et autres pour saisir le Conseil constitutionnel, justement de la conformité à la Constitution de cette loi. Étant précisé que l'article 45 de la Constitution, il dit quelque chose de très simple, c'est que lorsque vous avez un projet de loi, il peut être amendé, mais que ces amendements, pour qu'ils soient recevables et en dépit du vote qui peut intervenir, mais ex post, le Conseil constitutionnel l'interprète, encore faut-il que ces amendements aient un lien direct ou indirect avec le contenu du projet de loi. Ça n'était pas le cas.
Ça peut l'être.
Heureusement qu'il n'y a pas de contrôle a priori de la conformité des lois. par le Conseil constitutionnel, la Constitution. Si vous voulez... Alors là, c'est encore pire. Là. Non, c'est un contrôle ex post. Hein.
En tout cas, on a quand même passé beaucoup de temps. De fait, les 900 parlementaires ont passé beaucoup de temps sur cette affaire.
Les 900 parlementaires, excusez-moi, mais ce sont des idiots.
Par ailleurs, tout cela est quand même cousu de fil blanc. On a un président du Conseil constitutionnel qui est un macroniste de la première heure et qui, en plus, n'est pas juriste. Et on a une série de décisions de ce même Conseil constitutionnel qui vont toutes dans le même sens, Je les ai citées. Tout ça peut provoquer, en tout cas dans l'opinion publique et auprès des braves gens comme moi qui ne sont pas des juristes distingués,
il suffit d'aller voir une vraie Cour suprême. Là, faut pas déconner non plus. Si vous allez aux États-Unis, vous regardez, on a le droit de pas aimer la Cour suprême américaine, mais elle rédige des vrais arrêts. C'est pas une blague. Je veux dire, quand on regarde le Conseil constitutionnel, on est quand même nombreux à le faire. On se demande au bout du bout comment est-ce qu'il a pu juger de cette façon-là parfois. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Tout ça est du fait qu'on a, mais de toute façon, on a le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a ni vraiment une Cour suprême, ni rien du tout. Donc on se retrouve avec cette espèce d'entre-deux pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'aurait jamais dû l'avoir. Et finalement, on se débat avec ça depuis 75 ans.
Exactement. Allez, on va terminer sur ce chapitre. Nous parlerons tout à l'heure de l'affaire Canal+, hein, le suicide en direct du cinéma français. Nous allons tout de suite parler de la haute trahison de la France et de son peuple.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Voilà, et avec Yves-Marie Sévillia, Jean-François Coulon-Désart et Damien Chalamel. Pendant les opérations militaires en Iran, la guerre continue. La guerre entre les États-Unis et l'Union européenne. Trump a réussi à imposer ses droits de douane à une Union européenne qui s'est mise à genoux pour accepter le diktat américain qui va la ruiner un peu plus. Comment en est-on arrivé là aujourd'hui ? Chers auditeurs, on vous embarque dans le secret de la tanière européiste, là où les fauves dévorent patiemment les vieilles nations européennes. Avec nous, pour en parler, un brillant avocat qui vient de signer un livre assez extraordinaire, un livre que vous irez chercher immédiatement après l'émission, j'en suis sûr, Maître Guilain Benassa. Benassa, merci de nous rejoindre, Restons courtois, en partenariat avec Boulevard Voltaire. Vous êtes docteur en droit public, vous êtes avocat, philosophe, vous enseignez à l'université de Strasbourg, vous m'arrêtez s'il y a une erreur, et vous avez la plume facile. Vous êtes un bosseur, puisque vous avez publié de nombreux livres qui donnent tous de fortes envies de lecture, j'en cite quelques-uns. Ça donne aussi une idée de vos convictions, une petite idée de vos convictions.
C'est pas faux.
Le totem de l'état de droit, concept flou, conséquences claires. C'est chez l'artilleur, c'était en 2021. On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges que vous avez écrits avec le député Rassemblement national Guillaume Bigot.
Qui n'était pas au Rassemblement national à l'époque. Ah. Je le précise parce que sinon il n'y aurait jamais eu de livre.
Ah oui, oui. Bon. Il intervenait à CNews.
C'est un ami, mais c'était avant qu'il rejoigne le.
Absolument, vous avez raison de le préciser. Ou encore, comment faire taire le peuple, le référendum impossible, c'est toujours chez l'artilleur. Alors si nous vous recevons aujourd'hui, hein, Guilain Benassa, c'est parce que vous venez d'écrire donc cet ouvrage qui est bien résumé par son titre, Nos vrais maîtres. Histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. C'est toujours chez l'artilleur, qui vous est fidèle, l'occasion de lever le couvercle sur cet assaut organisé contre la souveraineté française et amplifié depuis l'origine de l'Union européenne. Je voulais, pour démarrer, qu'on écoute l'intervention de De Gaulle. C'était le 15 mai 1962. Il parlait des questions européennes. Vous allez voir, ça va résonner avec notre propos.
Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuk intégrés. Alors, il est vrai que la patrie est un élément humain sentimental et que c'est sur des éléments d'action, d'autorité, de responsabilité qu'on peut construire l'Europe. Quels éléments? Eh bien, les États, car il n'y a que les États qui, à cet égard, soient valables, soient légitimes et, en outre, soient capables de réaliser. J'ai déjà dit, je répète, qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades.
Voilà, l'Europe des États, disait De Gaulle avec son style absolument inimitable. C'est amusant de réécouter ça. Et il récusait d'ailleurs l'idée d'Europe des patries, hein, il parlait d'Europe des États. Mais bon, on a bien compris que ce n'était pas l'Europe supranationale, en tout cas. Alors, Guilain Bénessin, dans le titre de votre livre, d'abord, il y a un mot qui frappe, hein, c'est le verbe « vendre ». Hein, c'est Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. Il y a donc des gens qui vendent la France à l'Union européenne. Qui sont-ils? Qui a vendu la France à l'Union européenne? Alors, vous citez, je vous mets sur la piste, hein, quelques...
Ça commence par un M.
quelques hommes. Hein, mais,
il y en a plusieurs qui commencent par un M.
Oui, il y en a plusieurs.
Un L.
Hein, voilà. Oui. Mais vous citez Alain Poher... Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, il y en a beaucoup.
Non, avant.
Disons que le problème, il vient dans le cœur du réacteur qui s'appelle Jean Monnet, évidemment, qui est le vendeur numéro un, le père spirituel de tous les vendeurs d'après, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est curieux. Je sais que Philippe de Villiers, par exemple, a fait un excellent livre sur les années Jean Monnet, et qui est-il, d'où vient-il, ce négociant en cognac. Et ensuite, est-ce que pour vous répondre clairement, en fait, je m'attendais quand même pas un livre qui m'a autant écœuré, je l'admets, la rédaction m'a presque écœuré.
Ça
petit
se sent
à
dans
petit.
Le ton. Hein.
Bah parce que je ne pensais quand même pas qu'on avait été vendu par tout le monde. Je pensais que je pouvais en sauver. J'en sauve pas. C'est-à-dire qu'une fois que De Gaulle part, c'est terminé. Évidemment, les trahisons d'abord sont mineures, ou en tout cas moins majeures, on dira ça comme ça. Après, l'histoire fait son temps, les petites choses, c'est des effets cliqués, comme dit l'Union européenne d'ailleurs. Vous savez, les petites étapes qu'on voit jamais, et au bout, on se rend compte qu'on est cul nu sur la place publique. Mais alors que 5 minutes plus tôt, vous étiez encore en costume. Mais pour vous répondre, en fait, tout le monde a vendu, tout ce qui a pris la suite de De Gaulle a vendu la France, mais surtout, ce que j'ai découvert, je me rendais pas compte à ce point-là, honnêtement, que les juristes de l'ombre, parce que l'Union européenne, c'est du droit, avant toute chose, c'est une somme de normes. Ceux qui ont rédigé les normes de la construction européenne, depuis le premier jour dans le bureau de Jean Monnet jusqu'à aujourd'hui, n'ont eu qu'un seul but à chaque fois. C'était vous savez, c'est le mot de Jean Monnet, premier discours de Jean Monnet à la tête de la Commission, il dit « On pourra tout négocier, sauf deux choses, la supranationalité et le fédéralisme. » Et en fait, tout le monde a été d'accord avec ça. Il y a juste un problème pour eux, c'est que pendant 11 ans, on a eu le général de Gaulle, mais qu'avant le général de Gaulle,
et
après,
alors d'ailleurs,
c'était terminé.
Vous racontez qu'il revient, ils sont absolument catastrophés. Quand de Gaulle revient au pouvoir, ils ont déjà enclenché tout ça. Et en fait, c'est un coup de tonnerre.
Ah, évidemment, c'est un coup
en
de
58.
Tonnerre. En fait, on entre dès le premier jour dans le bureau de Jean Monnet, quand la construction européenne commence. C'est un nouveau monde qui démarre. C'est un monde fait, très vite, hein, évidemment, mais c'est un monde pétri d'une part dans l'économie, d'autre part dans le droit. D'accord, ces deux mondes-là vont prendre peu à peu le pouvoir. La politique, ils n'aiment pas beaucoup. D'ailleurs, Jean Monnet, d'ailleurs, a une sainte détestation pour les politiques. Il a du mépris pour les politiques et pour tout ce qui tient de l'élection, la démocratie, tout ça, c'est pas trop son truc. Et en fait, le problème, c'est que le général de Gaulle va représenter, fort logiquement, l'inverse de leur monde. C'est-à-dire, déjà, un homme qui sait parler, je m'excuse, on en revient là, on vient de l'écouter, un homme qui sait encore faire de la politique. C'est-à-dire que, je m'excuse, là, je fais une petite incise, mais je viens d'entendre, il y a 5 minutes, la déclaration de candidature de Gabriel Attal. Ah oui. Vous faites écouter, désormais, du général de Gaulle.
Ça fait une différence avec De Gaulle.
Il y a une sacrée différence. En tout cas, d'une part, le style de De Gaulle pourrait être un problème. Ce n'est pas rien. Pourquoi? Parce que c'est un deuxième élément. Les juristes n'aiment rien tant que ce qui est profondément ennuyeux. C'est-à-dire que pour faire du droit, il faut vouloir s'ennuyer.
De dire ça de la part d'un avocat.
Il faut être capable de devenir un obsédé textuel. Or, le général de Gaulle est tout sauf cela. Il va expliquer en long, en large, en travers, que lui, puisqu'il a la légitimité, il ne va pas s'embarrasser d'occuper l'espace à coups d'alinéas, de discussions, d'exégèses, de clauses, etc. Pour eux, c'est catastrophique.
Et de décisions.
Et de décisions, naturellement. Et en réalité, l'opération est simple. En parallèle du politique, en parallèle, se montre réellement l'état profond européen, on peut l'appeler comme ça, qui est une espèce de structure au début assez lâche, qu'il a fallu concocter, travailler, mettre en place, etc. Et en fait, l'objectif de cette superstructure dès le premier jour, c'est de parvenir au bout du compte à notre situation actuelle, c'est-à-dire à la fin des États, à la mort des nations, à la fin des peuples. Et en fait, j'ai retrouvé tous ces stigmates dès les premiers juristes, dans les premiers temps, qui ont mis en place la construction européenne, ouais, à coup de phrases assez épouvantables, je veux dire, quand on les reprend aujourd'hui.
Ouais, vous racontez ça par le menu, comment est-ce qu'on a tricoté une espèce de camisole de force pour les États au fur et à mesure, on va en reparler tout au long de l'émission, c'est absolument passionnant. Je voulais passer là, Jean-François Coulon-Desarts.
Oui, vous avez évoqué déjà monsieur l'inénarrable monsieur Monnet, mais son homme de l'ombre, monsieur Legendre, c'était qui?
Ah, vous en parlez beaucoup.
Non, Legendre, j'en parle quasiment pas. Non, moi je suis...
Alors, je confonds avec un autre.
Je suis monsieur Lagrange.
Lagrange.
Non, parce qu'il y avait quand même une foultitude de petits fonctionnaires qu'on connaissait peu. En fait, il a un homme... il n'en a pas qu'un. Il a quelques juristes qui vont lui donner un coup de main pour monter le projet. Ce dont je me suis déjà, avant de me pencher sur le cas Lagrange, qui est
sur
une figure
parcours,
absolument emblématique, il faut se rendre compte de quelque chose de très simple. Jean Monnet, en fait, détestait travailler. Alors ça s'est su sur le tard, c'est qu'en fait, il n'aimait pas passer du temps à réfléchir. Il voulait que ça aille vite. C'était un intuitif, à mon avis, plutôt excellent en matière de management aujourd'hui, pour reprendre les termes à la mode. Mais il savait s'entourer. Il a su s'entourer de pas mal de gens. Dans ces tout premiers temps, là on se parle vraiment du début de la construction européenne. Il n'y a pas le traité de Rome, on est en 1950, il faut tout créer, c'est un Far West. Jean Monnet, par le biais des Américains, selon moi, plusieurs scénarios possibles, est tombé sur ce Maurice Lagrange. Maurice Lagrange, on lui a présenté comme un grand magistrat, et d'ailleurs dans ses mémoires, Jean Monnet écrira, mémoire qu'il a manifestement écrit avec l'appui des Américains, dans ses mémoires, Jean Monnet écrira qu'il était de la race des grands magistrats de l'histoire de France. Quand on tombe dessus, on se dit,
voyons.
Type formidable.
Ouais.
Donc ce fameux Lagrange...
il est peu connu, mais il joue un rôle clé.
Ah, il joue un rôle, c'est clair, c'est très simple, c'est le père de la justice européenne. Aujourd'hui, si on a une cour de justice qui d'ailleurs nous explique tous les 4 matins qu'on ne peut rien faire, c'est parce que cet homme-là, ce Lagrange, a rédigé les statuts de la cour en 15 jours.
C'est ça, il l'a imaginé, mis en place et dirigé.
Exactement. Il a été avocat général par la suite et à l'origine, il a été le concepteur de la justice européenne.
Mais il vient d'où?
Voilà. Alors, Lagrange. Donc, évidemment, dans les années 30... Il fait Sciences Po, etc. Donc, il fait l'école libre de sciences politiques, donc Sciences Po. Il rentre évidemment au Conseil d'État dans la foulée. C'est pas très étonnant. Jusque-là, le parcours classique. Et en 1940, lorsque sonne la défaite française, l'étrange défaite, il rejoint immédiatement Vichy avec un plaisir non dissimulé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas un pétainiste accidentel. C'est pas un type qui s'est perdu parce qu'il y avait la lumière au fond du couloir.
Ouais.
C'est un type qui est un antisémite, un vrai, dont on retrouve d'ailleurs des traces dans des archives invraisemblables, et qui va être chargé par le régime de Vichy d'écrire le statut des Juifs. Donc il va réfléchir à l'exclusion des Juifs de la fonction publique. Et là où il est encore plus intéressant d'une certaine manière, c'est que c'est l'homme qui va estimer, dans une réunion que je restitue dans mon bouquin, que le régime de Vichy n'est a priori pas assez antisémite, qu'il voudrait exclure l'intégralité des fonctionnaires de France, y compris la moindre secrétaire de sous-préfecture qui traînerait par là, qui veut purifier d'une certaine manière
et
l'intégralité.
De fait, il s'en sort sans aucun problème.
Voilà, il s'en sort très bien.
En 45.
Il a à peine un blâme. Alors, il ment aussi comme un arracheur de dents lors de la libération. Il explique qu'il a toujours voulu défendre tous les persécutés, y compris les Juifs en particulier. Bon, c'est pas le premier qui ment dans l'histoire, mais là où ça devient fascinant, c'est qu'il est à peine réprimandé, il est promu dans les années qui suivent, dans les mois qui suivent, je crois d'ailleurs, et par le jeu d'un détour par les Américains, qui vont l'utiliser pour dénazifier la fonction publique allemande, hein, c'est là où le cocasse, le tragique devient cocasse, il va finalement rejoindre Jean Monnet, et il va devenir, pour Jean Monnet, c'est très simple, son atout juridique numéro 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je me permets juste une...
Il va s'appuyer sur lui.
Voilà. Vous savez, il y a une phrase que je trouve. Le mode d'emploi de l'Europe, pour moi, c'est la phrase de Walter Hallstein, autre ancien nazi devenu président de la Commission. Walter Hallstein qui dira « L'Europe, c'est du droit. Le droit, c'est de l'Europe, en quelque sorte. » C'est-à-dire qu'il dit tout ça, c'est que des normes imbriquées. Cette phrase « L'Europe, c'est du droit. Le droit, c'est de l'Europe, en quelque sorte. » Cette phrase-là correspond à merveille avec la façon dont Lagrange, dans le bureau de Monnet, a pensé la justice européenne, la future Cour de justice et les espèces d'une pensée de la Cour suprême européenne pour avoir un pour que l'étau pèse immédiatement et le plus vite possible sur l'intégralité des États.
Mmh. Alors, ce qui est fascinant sur cette personnalité, mais je vous donne la parole tout de suite, Damien Chalamel, c'est que, accessoirement, le site internet de la Cour de l'Union européenne, aujourd'hui encore, occulte sa biographie de ce fameux Lagrange entre 40 et 45, comme par hasard. Ce que vous nous avez raconté là, on ne le trouvera pas sur le site internet de l'Union européenne.
D'ailleurs, je ne vous cache pas que depuis que mon bouquin est sorti il y a deux ou trois mois, je suis allé vérifier parce que je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui, par le plus grand des hasards, va m'entendre en parler et fera vite un petit correctif tout de même. Ça ne bouge pas. Donc effectivement, on a toujours un trou dans le CV. Donc entre 40 et 45, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je précise dans le bouquin qu'il y a d'autres membres de la Cour de justice qui ont aussi un beau trou dans le CV et dont on a fabriqué la légende.
Beaucoup.
Et il y a deuxième chose, c'est que lorsque, encore aujourd'hui, on évoque parfois Lagrange, j'ai trouvé des entretiens actuels, hein, des années 2000-2010, de magistrats français qui louent l'immense travail de Maurice Lagrange, l'homme exemplaire des premiers temps de la construction européenne. Sans lui, nous ne serions rien. C'est merveilleux.
Extraordinaire, extraordinaire. Damien Chalamel.
Écoutez, alors, d'abord, je tiens à dire que moi, j'aime beaucoup, d'une manière générale, ce qu'écrit Guylain Benessa. Mais là, en l'écoutant, déjà, il faut que je dise que j'aime beaucoup ce qu'il dit, mais je ne suis pas gaulâtre. Donc apparemment...
On vous pardonne. Hein.
Notre ami
vous avez égoliste. Vous avez le droit, Damien.
Juste français.
Oui, oui, mais enfin, écoutez, on va y venir. Bon. Et en plus, je ne suis pas complotiste. Alors, si vous voulez, je trouve que c'est un peu trop facile de faire une espèce de réductio ad petinum ou ad Hitlerum, comme vous voulez, à partir du cas de Maurice Lagrange, parce que la question très juste que vous posez, c'est-à-dire celle de la volonté de dépasser l'État-nation, c'est une question qui agite les élites françaises depuis au moins la fin de la Première Guerre mondiale. Et alors, je vous citerai Drieux-La Rochelle, mais même Drieux-La Rochelle, pas forcément le fasciste. Hein, donc le fait, si vous voulez, de rêver des États-Unis d'Europe ne fait pas de vous en soi un traître, hein, forcément. Et il n'y a pas besoin de participer à un quelconque complot pour ce faire. Alors, il va sans dire que moi, je ne suis pas du tout partisan des États-Unis d'Europe. Hein. Dans les années 90, chez les souverainistes, d'ailleurs, on disait les États-Unis, les États-Unis, pardon, l'Europe unie, c'est les États-Unis en Europe. Hein. Mm. Bon, maintenant, ça a un peu changé. Donc moi, si vous voulez, la critique de fond de souverainisme, je l'entends et je la lis. Elle est brillante chez vous, mais là où elle me gêne quand même, c'est alors la première
question.
Qu'est-ce
qui vous gêne,
c'est
Damien Chalamel,
la souveraineté, mais pourquoi faire? Mais la République islamique de France, moi ça m'intéresse pas.
Elle est déjà européenne, la République islamique.
Oui, mais c'est trop facile de répondre comme ça. C'est trop facile.
L'Europe supranationale ne vous dérange pas, Damien?
Mais bien sûr que si. Là où ça me gêne, deuxièmement, c'est que c'est pas parce que vous réformez, si vous voulez, le contenant que vous allez réformer nécessairement le contenu. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, ce serait très bien d'avoir un État-nation indépendant. C'était d'ailleurs, je veux dire, la position de Philippot. C'est pour ça que quand vous avez dit que Guillaume Bigot, dans vos précédents ouvrages, On marche sur la tête, n'était pas encore député RN, effectivement, parce que...
Il y a quelques passages du bouquin qui ne pourraient plus écrire aujourd'hui.
Mais bien sûr, il explique que le Rassemblement National est dans l'hypocrisie la plus totale dans sa critique européenne. Moi, je pense qu'en réalité, le Rassemblement National est un parti politique et je pense que c'est proprement, juste précisément, impolitique... Je finis mon propos.
Ouais.
Impolitique que de poser de manière très abstraite, comme ça, aux électeurs, en leur expliquant que la clé de tout, c'est la réforme. Le Brexit, ou comme vous dites très intelligemment, le Bruxit, bouter Bruxelles hors de l'Union européenne, je trouve la formule excellente, mais alors, non seulement parce que je pense que ça ne résoudrait pas tout, loin de là, et deuxièmement, ce qui est terriblement gênant, c'est que cette construction européenne, qu'on le veuille ou non, elle a été approuvée par les peuples et par le peuple français.
J'ai milité
contre le traité de Maastricht en 92.
La question n'est pas là. La question, c'est que le premier jour où l'Europe... Je ne parle pas des rêves et des chimères telles qu'elles étaient dans l'ère du temps. Le jour où la construction européenne qu'on a aujourd'hui a été créée, elle a été créée par 4 gus dans un bureau, sans autorité, sans mandat, avec l'appui des Américains. Ils ont menti à tout le monde. Attendez. Premièrement, ça veut dire que moi, mon œuvre personnelle dans, avec ce bouquin, c'est que j'aimerais que nos enfants apprennent la vérité. Parce que chaque jour qui passe et qu'ils apprennent un mensonge, ils deviennent de moins en moins français, de moins en moins patriotes et de plus en plus perdus. Donc si un jour ils comprennent que oui, il y a eu complot, qu'il a été fait comme tel, que Jean Monnet par nature est un salopard qui a, dont l'objectif était de vendre la France aux USA, ils comprendront un peu plus l'énergie dévorante qu'il a mise pour casser son pays. C'est-à-dire que l'objectif de Jean Monnet, c'est qu'il n'y ait plus de France. Ça ne l'intéresse pas. Il est passé à autre chose. Dans mon bouquin, je raconte quelques petits... des discussions informelles qui donnent lieu avant qu'il y ait le traité de Rome. Tout ce qui est dit est déjà un projet de disparition de l'ensemble. C'est hallucinant combien le premier jour, tout est fait pour ne rien dire, mentir, comploter. Un jour, il faut le dire. Et deuxième élément, alors pour la souveraineté...
Ça, c'est très bien expliqué dans votre livre.
J'étais étonné de la congruence de ce que j'ai trouvé.
Et deuxièmement, là, juste, vous avez une seconde. Est-ce que c'est une marionnette des Américains?
Jean-François.
Monnaie. Oui. Est-ce que c'est une marionnette que vous parlez de Monnaie? Une marionnette ou pas?
Ah oui, complètement. Voilà. C'est une marionnette des Américains. C'est-à-dire que Monnaie est un agent. Alors, là encore, je renvoie au livre de Philippe de Villiers qui est beaucoup plus, sur ce point précis, étayé que le mien. Mais il n'empêche, tout converge à comprendre. C'est intéressant que dès qu'il est jeune, dès les années 20, il va aux États-Unis, il croise des futurs patrons de la CIA, etc. Parce qu'il est déjà dans les petits papiers d'Alain Dulles, futur patron de la CIA. Il côtoie ces élites-là. Il a une claire idée de ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas, en gros. Il aurait pu faire sienne la formule de Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, mais il aurait pu faire sienne ça pour laisser tomber la nation, c'est une évidence. Et dans les années 40, alors ça, Éric Branca le dit tellement bien dans L'Ami américain, dans les années 40, il complote contre De Gaulle au profit de Giraud pour que les Américains, techniquement, se partagent la France à la fin. Je veux dire, c'est pas très compliqué à comprendre.
Donc c'est vraiment un agent américain.
Là où ça m'a intéressé, c'est que j'avais pas mesuré combien Jean Monnet ensuite, il va mettre en place ses lieutenants, ces conseillers, ces hommes qui vont fabriquer techniquement, qui vont usiner la construction que finalement Schuman et Monnet comprennent assez peu. Parce que la construction humaine, c'est assez compliqué. La supranationalité, même les juristes à l'époque ne comprennent pas ce que c'est. Le fédéralisme à cette échelle-là, personne ne comprend. Parce qu'il y a plusieurs langues, parce qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on va raisonner. Il faut des gens qui comprennent. Et c'est là où Lagrange, d'autres, Paul Reuter, par la suite, tout un aéropage de technocrates, eux, ils savent. Eux, ils ont compris. Et eux, ils vont se lancer.
C'est ça. Et ils se lancent dans des constructions judiciaires qui écartent complètement à la fois le peuple et la démocratie. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ils font ça entre eux, avec leurs réseaux, les réseaux de Jean Monnet, qui sont considérables.
Notamment le comité d'action, plus tard.
Et l'argent américain. Alors, vous parlez un peu moins de l'argent américain. C'est moins votre angle. Mais vous racontez très bien toutes les petites cénacles, les gens qui rentrent, qui travaillent, qui sont recrutés et qui avancent dans l'ombre, toujours en parfaite indépendance et mépris finalement de la démocratie, du peuple, des peuples et des pays et des vieux pays. Et vous donnez cette citation de Monnet, c'est en août 52, donc très très tôt, toutes ces institutions pourront être modifiés, améliorés à l'expérience, dit-il, et tout prêt à changer. Ce qui ne sera jamais remis en question, c'est qu'elles sont des institutions supranationales et, disons le mot, fédérales. Et ça, c'est vraiment frappant parce que ça a été caché au peuple lors de toute la propagande, on peut appeler ça, européenne, qu'on a entendue. Nous qui avons plus de 20 ans, aujourd'hui, depuis des années,
Aujourd'hui, c'est un peu changé de nom. C'est-à-dire que en réalité, c'est ce qu'Emmanuel Macron vise lorsqu'il parle de souveraineté européenne. C'est le fédéralisme. Il l'appelle souveraineté parce que ça fait bien, parce que c'est un petit peu plus vendeur. Mais techniquement, ça s'appelle le fédéralisme, point barre. Mais il ne le dit plus, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Employer le mot fédéralisme, c'est quand même pas très bien vu, c'est pas très clair, on sait pas trop vers quoi on va non plus, faut le dire, parce que les gens ont quand même compris qu'on était un peu en train de se suicider tous ensemble avec l'Europe. Donc, mettre le mot fédéralisme aujourd'hui par les temps qui courent pour gagner les élections présidentielles, par exemple, ce serait pas la meilleure des choses. Vous parlez souveraineté européenne, là par contre, vous avez un peu ça sonne encore puissant, il y a quelque chose de vrai, a priori, pas pour moi, mais je veux dire, la rhétorique fonctionne.
Moi, je vois un point commun entre la rhétorique macronienne et la vôtre. Non, mais il me semble qu'il y a une confusion entre la souveraineté et la puissance. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et encore une fois, je suis plus de votre côté, mais je pense que la France retrouverait-elle sa souveraineté elle aurait la même puissance. Bon, voilà. Qui est... Alors, je préférais encore qu'elle, à la mesure de sa puissance, je préférais encore qu'elle soit souveraine. Et je déplore ce crypto-fédéralisme, ce fédéralisme rampant et de plus en plus prégnant, effectivement. Mais c'est quand même très gênant, si vous voulez, de dire...
Non, mais cette fédéralisme affaiblit la France. C'est quand
Il affaiblit la France...
On a une chronique tout à l'heure sur les pêcheurs qu'on ne peut pas aider sans demander l'avis de Bruxelles.
Non, mais bien évidemment...
Si vous estimez que ça, c'est réclamer de la puissance, je ne crois pas. Je réclame juste à ce qu'on puisse...
Non, mais parce que vous pensez... Regardez le Royaume-Uni, qui est sorti, qui était rentré en 73, et qui est sorti il y a 10 ans, donc bon... le Royaume-Uni est maître chez lui. Pour autant, les mêmes errements en termes de politique migratoire. Oui,
Ils n'ont jamais fait Brexit.
Bon.
Ah non, ils n'ont jamais fait le Brexit. Ils n'ont jamais fait le Brexit. C'est très simple. Déjà, dans les mémoires.
C'est un faux Brexit.
Alors,
c'est
très simple. À nos auditeurs.
Bon, c'est intéressant.
Franchement, on ne peut pas le soupçonner d'être le pire de tous. Quand Boris Johnson, dans ses mémoires, parle du Brexit, il est extrêmement clair. Il dit que le jour où il y a eu le Brexit, en gros, il s'est retrouvé quelques temps plus tard, avec les élites du coin, Barack Obama aussi dans un coin, etc., à dire bon, comment ça va se passer. Tous les gens face à lui lui disent immédiatement bon, on va l'annuler, Ça veut dire que le premier jour, au premier temps, comme Jean Monnet dans son bureau, il n'a jamais été question de faire le Brexit. Jamais. Les élites anglaises voulaient l'annuler.
Ça ressemble au référendum français.
Ça veut dire que techniquement, je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie qui a été faite, mais regardez, je prends un exemple très simple. Qu'est-ce qu'ils ont fichu avec la Cour européenne des droits de l'homme ? Donc ils sont sortis de l'Europe, mais ils ont gardé la CEDH. Ils sont sortis de l'Europe pour faire à moitié le chemin et pour mettre Keir Starmer, qui est le type qui est en train de les faire rentrer dans l'Europe sans vraiment le dire, tout en le disant à moitié. Et en essayant plus de nous faire croire. Qu'alors qu'on nous avait dit qu'il y aurait les 12 plaies d'Égypte, il n'y a pas eu les plaies d'Égypte. Je veux dire, je suis d'accord qu'il y a à redire, mais l'Angleterre, la Grande-Bretagne se porte pas beaucoup plus mal que nous, voire franchement mieux que nous.
Oui.
Alors qu'on leur avait, on avait dit qu'ils allaient, en gros, ils allaient crever. Je veux dire, en France, à écouter la propagande française, ils allaient crever. Il y aurait plus de pain dans les rues, il y aurait plus à manger, ils pourraient plus sortir de chez eux. L'étape d'après, c'était le, on allait les retrouver au fin fond de la Tamise. Je veux dire, c'était environ ça l'idée.
Oui, oui. Non, mais
on en est quand même.
Moi, j'étais à l'époque
années-lumière.
Dans le magazine Challenge. Non, j'entends bien, mais on écrivait que ça allait être la ruine.
Vous ne me convainquez pas sur un point. C'est-à-dire que j'entends bien ce que vous dites sur la situation du Royaume-Uni, mais je ne pense pas que ce surcroît de souveraineté qui résulte quand même malgré tout de ce Brexit. Qu'il en ait résulté un surcroît de puissance, c'est ce que je veux dire. Et oui, mais alors ce sont
les élites
mais alors
trahissent.
Ça devient problématique alors, parce que je suis désolé. Keir Starmer, vous pouvez prendre cet exemple.
Les européistes trahissent.
Et bien, vous faites l'éloge de la démocratie nationale dans le cadre de l'État-nation. Le plus vieil État-nation avec la France, c'est l'Angleterre. Ben, Keir Starmer, jusqu'à preuve du contraire, c'est le premier ministre légitime et qui est le reflet du vote aux communes.
Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas trahi.
Non, mais c'est pas... D'accord, mais à ce moment-là, on trahit à tous les coups.
Non, mais Valéry Giscard d'Estaing a été légitimement élu et légalement élu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion.
Il voulait être président de l'Europe.
Il voulait être président de l'Europe. François Mitterrand fait la même chose et il a trahi. Sarkozy, en 2007, a été élu et il a trahi avec le traité de Lisbonne.
Et Macron veut être président de l'Europe.
Je veux dire, non, attendez, je ne remets pas en cause l'élection. Je dis juste qu'ils trahissent parce qu'au bout d'un moment, ça ne les intéresse. Leur pays ne les intéresse pas. Ils sont ailleurs.
Je pense que
le fond de l'affaire,
c'est
ça correspond à la question de la sécession aujourd'hui, la partition française. Aller au fin fond de la France, demander à quelqu'un s'il a une idée ce que c'est l'Europe. Aucune. Il n'y a que les métropoles qui savent ce que c'est. Et comme par hasard, tout le gratin qu'on a aujourd'hui, c'est soit des enfants des Young Global Leaders. D'ailleurs, j'en fais un petit peu les liens. C'est fascinant quand vous commencez à l'organigramme, vous avez les réponses à vos questions. Je veux dire, c'est pas du complotisme, c'est juste savoir d'où viennent les gens.
Non, mais moi, là où je suis pas d'accord avec vous, de vous demander à n'importe quel Français, au fond du Béarn, vous lui demandez pas ce que c'est que l'Europe. Demandez-lui ce que c'est qu'un Européen. Bah, il le sait.
Il n'en a aucune idée.
Jean-François.
Un Européen,
Un Européen, oui. Un Européen au sens de l'Union Européenne, certainement pas.
Oui, mais voilà, mais j'entends bien.
Jean-François Clondezard.
Moi aussi.
Alors, Guillaume Benassa, le constat est absolument redoutable et terrible. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce merdier ? Est-ce que la politique de la chaise vide, façon de Gaulle, ça suffira ? Ou est-ce qu'il faut tout faire péter ?
Écoutez,
pour tout remettre à plat.
Peut-être la chose qui m'a le plus frappé en faisant mes recherches, c'est quand je suis tombé sur cette note du Quai d'Orsay que j'ai mis dans mon bouquin. Note du Quai d'Orsay quand De Gaulle fait la chaise vide. Et où le Quai d'Orsay, un conseiller du Quai d'Orsay, écrit noir sur blanc une note à l'attention du général De Gaulle en disant « Votre stratégie ne suffit pas, il n'y aura pas de salut sans sortie pure et simple des traités ». Ça veut dire que ce jour-là, le Quai d'Orsay recommande le Frexit au général De Gaulle. Personnellement, je ne connaissais pas cette note. Donc je suis... D'ailleurs, la trouver n'était pas une mince affaire pour l'avoir en entier, parce qu'à limite, j'ai trouvé des extraits, mais je voulais vérifier. Vous voyez, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. On parle de Frexit en 2026, pas en 1965. Ça veut dire qu'à l'époque déjà, ça ne suffisait pas. Alors, pour vous répondre clairement, lorsqu'on fait le bilan du compromis de Luxembourg et la fin des années, enfin, oui, la fin des années de Gaulle, on va dire, je pense que le défaut de Gaulle, c'est qu'il a tellement fait qu'il n'a pas pu gérer comme il le fallait. À mon avis, il est passé à côté de la réforme, plutôt de la révolution européenne. D'ailleurs, je raconte dans mon bouquin en détail, énormément de juristes dans les ministères ne comprennent rien à ce qui se joue. Ils ne savent pas ce que c'est le principe de primauté, fameuse question. Ils ne comprennent pas la jurisprudence de la Cour de justice parce qu'ils pensent que ça ne servira jamais à rien. C'est, pour eux, c'est, des, c'est d'obscurs technocrates d'au fin fond d'une villa quelque part à Luxembourg. Tout le monde s'en fout. Ouais. D'ailleurs, les unes passent à côté, les journaux n'en parlent pas.
Donc, et tous ces hommes ne font rien pour les détromper.
Et ils font rien pour les détromper. Mais il faut dire aussi, ramenons ça à sa proportion. Imaginez des juges européens à l'époque. Aujourd'hui, on les a partout, les juges européens. À l'époque, la Villa Pescator, au siège des juges, je cherchais un petit peu, parce que je voulais des détails sur le fonctionnement de l'institution.
Elle était petite, maintenant c'est beaucoup plus
c'est
grand.
C'est tout petit. Et en fait, je me suis rendu compte souvent que ma méthode de juriste n'est pas la bonne. Quand on travaille le droit, on travaille la norme. Vous travaillez les hommes. Si vous comprenez les hommes, vous comprenez la norme. La Villa Pescator, c'est en gros le
C'est en Belgique, hein ?
C'est au Luxembourg.
Au Luxembourg, pardon. Au
dans le parc municipal du Luxembourg. Ouais. C'est devenu un musée entre-temps, donc elle était pour autre chose. C'est une superbe demeure cossue. On dirait plus un hôtel particulier que... C'est le contraire des immeubles éco-responsables et vitreux qu'on se tape à Bruxelles habituellement. Donc ça a l'air charmant. Et en fait, c'est une équipe qui travaille, les juges européens à l'époque, ils travaillent en toute confidentialité. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette villa, personne ne vient les voir, ils sont très peu, ils sont quelques juges, quelques assesseurs, quelques assistants. Ils sont à l'époque moins d'une quarantaine en tout. Donc, ils font ce qu'ils veulent, tranquillement. Et en fait, dans cette espèce de moment un peu de, je dis dans mon bouquin, de Far West, un moment de juridique, ils sont un peu libres parce que personne ne regarde trop de près ce qu'ils font, ils ne comprennent pas trop ce qui se joue. Il y a Michel Debré a tout compris, c'est le rare, où il dira la conspiration de l'intégration, le mot qu'il passera au général de Gaulle. Les autres ne voient pas le problème, ils se disent, mais ça ne sert à rien.
Bref. Laissez-les s'amuser dans leur coin.
C'est le seul qui prend ça au sérieux.
La preuve, d'ailleurs, un juge français qu'on mettra là-bas, Robert Lecour, le général de Gaulle le fiche là-bas avec Debré parce qu'il ne veut plus en entendre parler. C'est un europhile en diable, proche de Jean Monnet. Il se dit, il ne nous emmerdera pas à Luxembourg. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que cette avancée dans le dos du général de Gaulle, bon, déjà, il y a. J'avoue que quand on lit parfois certaines assertions d'époque, on se demande comment ils ont eu l'outrecuidance. Et la cuistrerie, je veux dire, parfois aussi, parce qu'il y a de la sophistication stupide dans cette rhétorique d'époque pour dire qu'ils sont plus intelligents que les autres. Hein. Il y a aussi un procès en bêtise. Hein. Les autres sont trop bêtes. Nous savons, nous manions le droit. Vous êtes imbéciles, vous n'avez pas compris. Vous êtes des politiques, en gros. Et pour vous répondre, pour De Gaulle, c'est que De Gaulle, le bras de fer qu'il a conduit à l'époque, je pense qu'il l'a conduit sans comprendre exactement la lourdeur et la pesanteur de cet état profond qui est avancé. Je pense qu'il voyait qui était Paul-Henri Spaak, le Belge. Il voit qui était Walter Hallstein parce que c'était le président de la Commission.
Des
mais
personnalités
derrière,
qui construisent l'Union européenne.
C'est des visages. Ouais. Je pense qu'il n'a pas vu ce qui se passait derrière exactement, la profondeur du couteau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut commencer à réfléchir, il faudrait déjà songer à faire au moins autant, voire beaucoup plus. Ce qui veut dire que nécessairement, sans violence, sans bras de fer hard, mon avis... Il n'y aura pas d'avenir concret.
On revient avec vous immédiatement, cher maître Guilain Benessa. Vous avez écrit « Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne » chez l'Artilleur. On vous retrouve juste après. Tiens, on va parler des politiques, des juristes, justement de ces personnalités qui ont construit l'Union européenne. Il y a beaucoup à dire, notamment sur leur passé pendant la guerre. Après ça.